Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. C'est le D-Day façon BFM Business, donc c'est la BCE. On va probablement avoir une baisse de taux de 25 points de base, mais après il y a une série de questions qui se posent, j'y reviens dans un instant. Et puis on va avoir une divergence entre la BCE et la Fed. Donc mécaniquement, on sait d'ores et déjà que cela aura un impact sur la valeur de l'euro par rapport au dollar. Automatiquement, la valeur de l'euro va baisser par rapport au dollar, ce qui peut être d'ailleurs un élément propice à favoriser l'inflation. Proxima, entreprise pilotée par Rachel Picard, l'ancienne patronne des TGV de l'ère Guillaume Pépi, annonce lever 1 milliard d'euros, un montant vraiment colossal, pour cette fois-ci peut-être réussir à lancer une vraie concurrence face aux TGV du monopole historique. Et en l'occurrence, il s'agit de faire rouler des TGV. 12 rames ont été commandées à Alstom pour s'attaquer à la façade atlantique en 2028 entre Paris et Rennes, Paris-Nantes et Angers, et également Paris et Bordeaux. Alors, est-ce que le rail et des monopoles naturels comme l'électricité, par exemple, peuvent vraiment s'épanouir dans la concurrence comme l'ensemble des secteurs d'activité? Nous ouvrirons ensemble le baromètre mensuel au Doxa à JP Challenge BFM Business, consacré ce mois-ci à vos perceptions en termes de priorité, plutôt la lutte contre les déficits et l'endettement, ou alors plutôt le fait de maintenir l'économie en vie, quitte effectivement à creuser le déficit et creuser la dette publique. On parlera du prix du pétrole qui recule alors que l'OPEP tente de faire tout pour obtenir le résultat inverse, et également ce chiffre de l'Observatoire des inégalités qui a voulu donner une nouvelle photographie de ce qu'on pourrait appeler un riche. Bonjour Céline Antonin.
Bonjour.
Bienvenue, économiste à l'OFCE, co-auteur du Pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Gaël Sliman, bonjour.
Bonjour.
Président de Doxa, donc pour le baromètre avec AGP dont on parlera dans quelques instants. Philippe Trénard, bonjour.
Bonjour.
Membre honoraire au CNAM et membre du CERF, professeur honoraire au CNAM et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. On va avoir probablement, Philippe, 25 points de base confirmés aujourd'hui, cette fameuse baisse de taux que tout le monde attend. Si on ne les avait pas, ça aurait un effet un peu tétanisant, probablement. Donc probablement qu'il ne va rien se passer d'inattendu. Maintenant, les questions qui se posent, c'est première baisse avant d'autres baisses dès cette année, de quelle ampleur, quelles seront les données sur lesquelles la BCE va arbitrer ses choix, qu'est-ce qui va se passer si les politiques monétaires divergent vraiment entre l'Europe et les États-Unis, et puis que risquerait l'économie européenne si le desserrement de politique monétaire se faisait trop lentement? Je vous dis ça parce que François Villeroy de Galhau a considéré que si ça allait pas assez vite, donc sous-entendu, lui souhaite, le gouverneur de la Banque de France, que les choses s'accélèrent, eh bien il dit que le prix serait élevé en termes de croissance et d'emploi. Comment vous voyez, j'ai pas envie de vous demander la décision du jour car elle est quasiment pliée, mais l'après?
Oui, la décision du jour, comme vous le dites, est quasiment pliée. Alors, l'après, si on se tourne, par exemple, vers les marchés financiers, ils voient une baisse continue de tant du taux qu'on paie sur les dépôts, c'est-à-dire si vous déposez de l'argent auprès de la Banque centrale, oui, que du taux du taux de refinancement principal, ce qu'on appelle main refinancing rate, qui est l'argent que vous prête la Banque centrale. Et donc, ils voient ce dernier taux qui est un peu plus élevé que le premier taux,
on devrait être à demi-point. On devrait être à 4,25 sur le refinancement et à 3,75 sur le taux de dépôt.
Voilà. Et donc
après la baisse du jour. Hein.
Voilà. Et donc on va se retrouver normalement, les marchés anticipent plutôt une descente vers 3% et 2,75. Pourquoi anticipent-ils cela? Ils anticipent cela tout simplement parce qu'ils pensent qu'il va y avoir assez rapidement une maîtrise de l'inflation en Europe, puisqu'ils ont des prévisions d'inflation entre 2 et 2,5%. Ça varie un peu d'un jour sur l'autre et selon la liquidité du marché, parce qu'il y a quand même des primes de risque qui sont inclus.
Ce serait donc la certitude que ça y est, l'inflation est vaincue.
Voilà. Alors, question, seul 3% ne serait atteint qu'en 2026. Hein. Ah. C'est donc une baisse très progressive qui est anticipée. Et honnêtement, avec une baisse parallèle de la Fed, mais retardée. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois de son histoire, la BCE serait d'abord autonome par rapport à la Fed. Elle n'aurait pas attendu que la Fed baisse, quoi qu'il arrive en Europe, ce qui était un petit peu la stratégie précédente.
Elle est pas
et donc,
suiveuse,
elle serait un peu plus autonome. Et elle, en plus, devancerait le mouvement. Mais il faut dire que la situation en Europe y invite, parce qu'on est près de la stagnation. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Céline, qui fait des prévisions à l'OSCE sur la croissance. Et donc, l'inflation n'est plus très élevée. Certes, il reste encore des salaires qui sont clairement des négociations salariales dont les taux, voyez-vous, sont clairement au-dessus d'un rythme d'inflation de 2%,
mais pas
dramatiquement.
Pendant
de longues années très en dessous, ils ont augmenté, mais vous voyez, ce décalage quand même peut toujours inquiéter la Banque centrale.
Je rappelle que l'inflation 4,7% premier trimestre 2024 en zone euro, constatée par Eurostat, est déformée par la très forte hausse des rémunérations en Allemagne.
Tout à fait.
On est au-delà de 6% en Allemagne.
Un rattrapage.
Céline, comment vous voyez la situation nouvelle ère des politiques monétaires, nouveau monde ou
oui, enfin nouveau.
J'ai eu un peu fort, hein, mais
nouveau monde. Enfin, je partage très largement l'analyse qui vient d'être faite par Philippe Trénard. Bon, voilà, on voit bien que on devrait avoir une baisse effectivement initiée par la BCE et qui sera suivi par la Fed. Alors il est vrai que c'est pas tout à fait le même contexte, notamment en termes de croissance, vous l'avez rappelé, et notamment après il y a aussi des facteurs à prendre en compte, vous l'avez dit aussi sur l'Allemagne, sur les salaires, mais c'est vrai que ce qui se passe sur les salaires, c'est justement le fait que, par exemple, en Allemagne il y a eu un temps de latence entre le moment où l'inflation est repartie et le moment où les salaires ont réellement commencé à augmenter. Donc en fait il y a eu au départ
aussi,
un peu de perte de... Oui, tout à fait.
On a eu une
tout
baisse du salaire réel pendant quasiment deux
mais
ans.
Mais la manière dont se passent les négociations salariales en Allemagne sont assez... c'est souvent tous les deux ans en fait qu'il y a une renégociation. Donc quand il y a de l'inflation, il faut attendre parfois 18 ou 24 mois pour voir l'effet sur les salaires, notamment dans les négociations de branches. Donc voilà, donc la modalité salariale fait qu'il y a ce différentiel temporel qui est justement un peu curieux et qui fait que les salariés allemands ont perdu en pouvoir d'achat et que là, a priori, ils vont gagner du pouvoir d'achat et même à la limite perdre en compétitivité au moment où c'est le moins opportun en fait.
L'autre question que je me pose, et après on passera, mais c'est l'euro va baisser. C'est un phénomène qui peut, notamment avec les prix de l'énergie, importer de l'inflation. Et puis moi, si je suis un investisseur rationnel, je vais mettre mes billes aux États-Unis parce que les rendements américains vont mécaniquement être nettement plus élevés que les meilleurs. Donc on nous dit, ouais, il faut desserrer la politique monétaire, c'est le carburant de la reprise et du soutien à l'activité, mais il y a quand même des effets qui sont des effets réels et sérieux.
Ça va poser des problèmes dans la campagne électorale aux États-Unis et notamment à l'égard
de
Trump. Parce que Trump va dire, regardez, non seulement ils ne nous payent pas pour l'OTAN et on les défend, mais en plus, ils s'amusent à faire de la dévaluation compétitive. Ça, je suis sûr que ça va être un des gros thèmes de la campagne électorale.
Voilà. Après, sur la croissance, c'est vrai que le taux de change, il répond aussi à plein de déterminants.
Oui.
Et c'est vrai que parmi les déterminants, il y a bien sûr la politique monétaire et il y a aussi la croissance. Mais cela dit, vu les perspectives de croissance qu'on a en zone euro, je ne suis pas sûr que même de baisser d'un quart de point, nous, on a un peu l'idée qu'on serait sur le taux principal de refinancement autour de 4% en fin d'année 2024. Oui. Donc,
alors, là où Céline pourrait avoir raison, qui est peut-être pas tant de mouvement que ça, c'est que probablement, c'est déjà assez largement intégré par les marchés qu'il va y avoir un décalage entre le taux en Europe pour un certain nombre d'années et le taux aux États-Unis. Un taux plus bas en Europe qu'aux États-Unis. Donc c'est déjà en partie dans les anticipations de marché.
Oui, on est sur un taux qui est quand même relativement bas, enfin en fait pour l'euro, hein, puisque en fait on est à 1 euro qui vaut 1,10 $. Donc je veux dire, on est plutôt...
0,9,
on est enfin, pour moi, on n'est quand même pas sur un taux historiquement élevé.
On est d'accord. Bon, en tout cas, la
jeune,
Oui.
J'ai connu d'autres. Pardon.
Mais on a eu une époque où on était à 1,30, donc.
Oui,
enfin, voilà.
Tout à fait.
Ah ben, on monte à 1,60 en 2007-2008.
C'est ça, oui. Absolument.
Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, à l'époque, même si le pétrole était très, très cher, il n'y avait pas eu autant d'effets sur le
cours de l'euro. Oui, mais il y a la balance commerciale. Enfin, il y a beaucoup de.
Les États-Unis baissent les taux et nous ne les baissons pas. D'ailleurs, une erreur gravissime, très honnêtement.
Quoi de l'erreur
quand on n'a pas baissé les taux.
Au moment de la crise.
Au moment de la crise, où on attend pour baisser, ça nous a coûté très cher.
En tout cas, la bonne nouvelle pour tout à chacun, c'est que, selon toute vraisemblance, les taux de crédit immobilier devraient continuer à reculer. D'ailleurs, on a vu des prix de l'immobilier commencer à repartir à la hausse.
Oui, l'enquête auprès des banques est plus positive sur l'immobilier. Je crois qu'il faut faire attention, je vois Céline Kioch qui n'approuve pas totalement, mais je crois qu'elle a raison. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge en matière immobilière et la crise est en train de commencer sur l'immobilier professionnel. Donc, attention.
Non, mais je dis pas du tout qu'on est sortis de l'auberge, notamment
mais
sur le secteur.
Les taux seront un peu plus favorables pour les ménages et les entreprises.
Oui, mais enfin. Et les enquêtes bancaires montent auprès des banques, montrent que c'est la partie qui se porte un peu moins mal. Oui, je ne sais pas qu'elle se porte bien.
Il faut
bien.
Aller voir du côté des promoteurs et de la construction, c'est cataclysmique.
C'est cataclysmique.
Je crois que c'est historique, le choc.
Oui, pour moi, c'est un choc historique.
Et d'ailleurs, ils vous expliquent qu'ils n'ont pas un problème d'offre. Ils ont un problème de demande. La demande n'est plus là. Oui. Il est temps que la demande revienne très vite. Mais comme c'est du temps long, il y a un moment, si la demande revient, il pourrait y avoir cette fois-ci un problème d'offre. Et enfin, c'est vraiment un sujet qu'il va falloir expertiser de près parce que les choses se passent.
C'est une crise historique aussi parce qu'elle est pour la première fois mondiale. Au même moment, tous les marchés immobiliers, tous les segments des marchés immobiliers, professionnels et non professionnels, dans tous les pays avancés, s'effondrent. Oui. Donc, honnêtement, c'est historique.
Je ne sais pas si vous connaissiez Proxima, mais vous avez sûrement déjà entendu parler de Rachel Picard. Elle a été directrice générale de SNCF Voyageurs. Elle a quitté la SNCF en 2020, il y a passé de très nombreuses années. Elle avait fait partie des fondateurs du site voyagesncf.com et Proxima a vraiment décidé de s'attaquer au TGV avec une levée de fonds absolument colossale dans le secteur de la concurrence ferroviaire, 1 milliard d'euros. Réalisé par le seul fonds Antin, le fonds d'investissement Antin, qui détiendra 100% du capital de Proxima. L'objectif, c'est d'avoir 12 rames commandées à Alstom. Le centre de maintenance est déjà organisé, donc les choses sont quand même vraiment engagées pour pouvoir, en 2028, tenter d'attaquer la SNCF avec des TGV Paris-Rennes, Paris-Angers-Nantes et Paris-Bordeaux. On se demande parfois si sur ces réseaux monopoles naturels, la concurrence peut s'épanouir. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on peut imaginer que la concurrence a vocation à exister sur le ferroviaire comme elle peut exister dans l'aérien, dans les télécoms ou autres ? Philippe. Ou alors Céline. Non mais Céline, allez-y, commencez.
Oui. Alors allons-y, bon, il y aurait beaucoup à dire. Bon, c'est vrai que cette idée de monopole naturel, elle vient d'une réalité historique qui est quand même que, alors je vais prendre l'exemple du train, mais je pourrais prendre l'exemple de l'électricité, mais effectivement, on a voulu séparer l'opérateur qui gère le réseau de l'opérateur commercial qui gère les trains, on va dire.
Oui, il y a celui qui s'occupe des rails, voilà, du foncier, et celui qui s'occupe des ventes de billets.
Et un monopole naturel se caractérise par le fait qu'il y a des effets de réseau, c'est-à-dire que donc vous avez des effets croissants, plus vous avez de monde en fait sur ce réseau et plus ça a un effet positif, et le fait que vous avez des coûts fixes irrécupérables, ce qu'on appelle les sunk costs en économie, et donc c'est l'idée que vous faites un investissement qui est tellement lourd et tellement gros à faire que vous pouvez pas avoir de concurrence, donc ça c'est sur la partie vraiment réseau, on va dire. Par contre, il y a la partie que vous pouvez ouvrir à la concurrence et donc qui est la partie des trains justement, et c'est ce qui a été fait. Mais moi ce qui me pose un peu problème, et ce pourquoi je pense que c'est très difficile d'aller vers une vraie concurrence sur ces réseaux, c'est qu'on demande en fait à quelque part à la SNCF, et de la même façon on demande la même chose à EDF, d'avoir en fait un rôle qui reste social, par exemple une tarification de l'électricité qui soit une tarification sociale de l'électricité. De même la SNCF, on lui demandera par exemple de prendre en compte le fait que certaines lignes ne sont pas rentables mais qu'il faut continuer à les exploiter pour
au nom de l'aménagement
satisfaire.
Du territoire, c'est voilà. Très vrai ça. Donc, on ajoute des missions quasi
service. Il y a quand même une mission de service public qui va continuer à pour les opérateurs historiques et qui en fait ne sont pas du tout dans la sphère de préoccupation du privé. Et donc en fait pour moi on crée quand même une concurrence qui est un peu déloyale et qui est un peu injuste entre ceux qui ont cette mission à assurer, et on l'a vu pour EDF, ils doivent continuer à servir des clients à des bas prix pour l'électricité. Par contre la concurrence, ils peuvent se permettre de faire des tarifications un peu curieuses, et par ailleurs on a vu que comme ils doivent de toute façon reverser des coûts à l'opérateur historique, etc., il y a de toute façon des échanges parce que en fait quand je reprends l'exemple cette fois d'EDF et de l'électricité. Si vous achetez votre électricité, on l'a vu quand l'électricité est devenue très chère, vous allez continuer à payer un prix élevé, puisque EDF devra payer un prix élevé pour son électricité, mais elle devra servir les concurrents à un prix qui est plutôt bas. Donc
et
en
même
fait,
à perte,
l'opérateur
hein,
historique,
l'AREN, c'est un prix
voilà,
à perte.
Tout à fait. Et donc il y a eu cette renégociation de l'AREN, mais bon, qui n'est pas totalement satisfaisante.
C'est
mais
hyper
donc,
compliqué en plus.
Du coup, vous quelque part, ça crée créer pour moi des conditions qui sont celles d'une concurrence qui n'est pas tout à fait pure et parfaite, et qui est, on en est même très loin. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très bancal, et moi je crois quand même un peu au monopole naturel, et donc je ne suis pas totalement convaincu.
J'ai repris cette phrase, je vais vous faire réagir Gaël Sliman là-dessus, j'ai repris cette phrase de Midnight Train. Midnight Train a jeté l'éponge là, c'était en début de semaine, ils voulaient lancer des trains de nuit, notamment un Paris-Milan-Venise, ils abandonnent faute de financement, faute de soutien de l'État, disent-ils, et l'un des cofondateurs dit à demi-mot, il a dénoncé, il dit c'est un marché qui a été organisé par les pouvoirs publics pour des monopoles historiques, et c'est comme ça, et c'est très 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 difficile à défaire.
Voilà. Je me permets juste une petite anecdote, parce que entre le producteur donc historique EDF et ce qui se passe sur les fournisseurs, alors autant en fait l'idée, en plus de l'ouverture, c'était aussi qu'en termes de production, on ait plus de production d'électricité, et notamment des sources alternatives, et ça s'est très peu passé en fait. Et par contre, on a eu une concurrence sur la partie vente commerciale. Mais sur ces ventes commerciales, on a vu des comportements qui étaient quand même, qu'on a pu dénoncer au moment où il y a eu la crise énergétique,
du style
des entreprises qui prenaient des clients donc dans les périodes justement qui amassaient beaucoup de clients pour avoir un accès important à l'électricité, donc pour avoir beaucoup d'électricité qui soit revendue par EDF, et qui ensuite se délestaient de ce portefeuille de clients pour en fait donc avoir de l'électricité pas chère et pouvoir la revendre plus chère à l'opérateur historique. Donc il y a eu quand même des comportements...
Mais là c'est à la limite de l'escroquerie, vous vous racontez, j'avais vu ça effectivement. Tu vas capter des clients, comme ça t'es bien servi
Et ensuite on augmente beaucoup les prix pour qu'ils aillent ailleurs. EDF est obligé de les récupérer.
Exactement. C'est épouvantable. Tu prends du mégawattheure à 42 euros de manière limite frauduleuse.
Et on le revend.
C'est vrai que si on fait le bilan de l'ouverture du marché de l'électricité en France à la concurrence, c'est pas reluisant. Enfin, ça a pas été une réussite extraordinaire. On a conduit un opérateur historique à amasser des pertes colossales pour faire vivre des concurrents qui étaient des simples revendeurs. Ouais. Et voilà, on n'a pas amélioré la production d'électricité, comme vous le dites, en France. Et je crains que la SNCF, ce soit un peu la même histoire. On n'a que deux acteurs qui ont un peu de place.
Oui.
Ils sont quoi ? Alors, ils sont la SNCF italienne,
sachant
la SNCF
que normalement
espagnole.
Ça devait amener une amélioration du réseau, des prix, enfin des prix plus bas, etc.
Mais je ferai réagir Gaël.
Oui.
Il y a un déficit de temps de parole. Gaël Sliman.
Oui,
par rapport
si nous
à ce
étions
sujet.
Dans les débats électoraux, ça vous coûte très cher. Parce qu'il faut, il faut les quitter maintenant, même pour les petits candidats. Non, sur la SNCF, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur le parallèle avec EDF. Il y a quand même une différence. On est en train de parler de TGV. Il y a un énorme irritant auprès des Français dans l'opinion sur la politique tarifaire qui est effectuée sur les TGV. Avec des logiques, on a pu entendre les responsables en charge de cela s'exprimer à maintes reprises, qui sont complètement inaudibles. Vous vous retrouvez avec des prix de billets de TGV qui sont plus chers que l'avion sur certaines lignes, à des tarifs exceptionnellement chers. Et la justification, c'est oui, mais attendez, régulièrement dans l'année, on fait des prix à, je sais plus, 1 euro, 10 euros, 15 euros, ce qui n'a aucun sens. Donc, il y a eu quand même une politique tarifaire complètement abusive qui fait qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, Nicolas, est-ce qu'il y a de la place pour un acteur qui se lancerait en concurrence avec la SNCF sur ce type de ligne TGV? Oui, il y a de la place parce qu'il y a, en tout cas, si on met les moyens, il y a une demande d'alternative de la part des consommateurs. Donc, de ce point de vue-là, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Et il n'y a pas eu ce parallèle, on ne peut pas faire ce parallèle avec EDF. EDF, pour le coup, ils se sont fait un petit peu avoir, vous l'avez très bien décrit. Là, dans le cas de la SNCF, si vous mettez demain des lignes TGV en concurrence, comme ça a pu se passer pour l'avion sur la façade ouest, il y aura de la demande.
Ah, mais actuellement, il y a plus de demandes que d'offres sur ces lignes-là, notamment le Paris-Bordeaux, donc il y aura de la demande. Mais après, il faut aussi que l'ancien monopole historique ouvre la porte. Parce qu'il y a quand même, SNCF Réseau effectivement s'occupe du rail, SNCF Voyageurs des billets, ça, oui, les deux ensembles sont séparés, ça reste un peu la même maison. Et on sait qu'il y a plein de billets qui permettent de mettre des bâtons dans les roues aux velléités concurrentielles.
Certainement, mais
qui sont plus ou moins visibles, mais bon.
Si vous permettez aux Français, aux
consommateurs,
d'avoir accès, parce que sur la politique tarifaire, avec le même prix moyen global par personne transportée, mais avec une politique tarifaire différente, vous aurez davantage de demandes, à mon avis, vers une offre alternative à celle qui nous est proposée aujourd'hui.
Il y a encore quelques petits projets qui essayent de surnager, mais il y a Railcoop a déposé le bilan il y a fin avril. Eux, ils voulaient faire du... Ils voulaient faire quoi, Railcoop ? Ils voulaient faire du Bordeaux-Lyon, qui a été abandonné par la SNCF en 2014. Pas assez d'argent, liquidation. Bon, le train espère un TGV Nantes-Bordeaux, c'est le nom, hein, le train. Kevin Speed était venu sur BFM Business raconter son projet de Ryanair du train avec des Paris-Lyon, Paris-Lille, Paris-Strasbourg. Il y a Evoline qui espère lancer un Paris-Londres, concurrent d'Eurostar en 2025. On verra. La concurrence impossible, Philippe Trénard,
Non,
le train n'est pas un univers comme les autres.
Je suis plus optimiste et je pense, comme vous le disiez, qu'elle est nécessaire parce qu'il y a une vraie demande et que nous sommes sur des opérateurs historiques. Regardons bien les opérateurs historiques. Actuellement, la négociation, notamment à l'occasion des JO, est juste simplement surréaliste. Vous vous dites, s'il y avait eu de la concurrence, naturellement, les choses se seraient passé totalement différemment.
Ah, vous voulez dans l'ensemble des prix obtenus par les monopoles publics.
Et donc des prix des tarifs, etc.
Ah oui, mais ça c'est aussi la responsabilité de la sphère publique d'accorder voilà. ce genre de...
Oui, mais en même temps, ils n'ont pas beaucoup d'arguments. Plus... Ils n'ont pas beaucoup d'arguments.
Mais la concurrence, elle vous dit, vous avez le concurrent qui vous met un prix qui est différent.
Oui, mais après, vous avez un monopole qui doit être régulé par l'État et qui doit être bien régulé par l'État.
Après ça, oui, je crois que l'important, c'est que la transition, toujours, d'un monopole vers... La concurrence, c'est pas une chose simple. Ça, nous l'avons appris. Même pour France Télécom, ça n'a pas été une chose simple. Et honnêtement, aujourd'hui, nous sommes bien contents qu'il y ait de la concurrence. Le consommateur est très content qu'il y ait de la concurrence. Alors, c'était plus simple sur France Télécom, un peu plus compliqué sur EDF. C'est aussi plus récent sur EDF. Donc, je crains que la transition soit difficile. Et là, les autorités de régulation ont réellement un rôle essentiel à jouer. Alors, ce qui s'est passé, c'est chez nous, les autorités de régulation, même si elles ont fait preuve de pas mal d'autonomie, ont, dans l'ensemble, plutôt été assez favorables au monopole historique pour dire, n'accroissons pas les coûts de ce monopole, surtout qu'il y a des coûts comme vous le savez, de retraites qui sont pris en charge par l'État, ça va être le cas pour la SNCF.
Donc
on est dans un système un tout petit peu de fou, parce que bien évidemment, peut-être les nouveaux acteurs, et encore c'est à voir, n'auront peut-être pas de mission de service public qui leur sera imposée dans le contrat par l'État, mais la SNCF sera subventionnée sur ses agents puisqu'elle ne paie pas, quelque part, elle ne paie pas véritablement le vrai coût de ses retraites. Donc on est dans un système qui est très compliqué, qui est plus compliqué du fait de l'action de l'homme. Je crois moins au monopole naturel, sauf au niveau des infrastructures, effectivement, du rail. Ça, c'est un monopole, enfin, parce qu'ils ont prise sur le domaine privé et que c'est pas quelque chose de simple. Et donc, je pense que c'est la régulation. Et si la régulation n'est pas bien faite, bien évidemment, ça va être un peu cahin-cahin. Et on l'a vu, d'ailleurs, en Angleterre, n'est-ce pas, la mise en concurrence du rail, c'est pas bien passé.
On marque une pause. Dans un instant, on ouvre encore un mot là-dessus, mais on ouvrira le baromètre d'Oxa. Pour vous, la priorité est-elle de lutter contre la dette et les déficits ou bien de soutenir l'activité, quitte justement à creuser ces déficits? C'est la question posée ce mois-ci. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Quelque chose. Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Céline Antonin, économiste à l'OFCE, co-auteur du Pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme, chez Odile Jacob. Gaël Sliman, le président d'Odoxa. Philippe Trénard, professeur honoré au CNAM et membre du Cercle des économistes. Ah, ça fait réagir la concurrence dans le train. Cet auditeur me dit, alors la mise en concurrence d'EDF n'a pas fonctionné, c'est parce qu'elle n'a pas eu lieu, en fait, écrit-il. Si on avait voulu une concurrence, il aurait fallu privatiser le parc nucléaire entre plusieurs opérateurs. Voilà, alors que le monopole de la rente nucléaire a été laissé à EDF. Cet autre auditeur, Gilbert, considère qu'il ne peut y avoir de concurrence qu'entre le train et l'avion. C'est son avis. Vous vouliez dire encore un mot là sur l'histoire de la concurrence?
Non, c'était très rapide. C'était que vraiment.
On a été un peu rapide sur le sujet, mais je crois qu'on a vraiment bien touché les sujets.
Parce que pour moi, il y a vraiment deux choses, comme le disait Philippe Trénard, et ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a la partie réseau sur laquelle, là, pour moi, c'est un monopole naturel, du coup, je veux dire, avec des coûts qui doivent être, voilà. Oui, et puis assurés par l'État. Enfin, je veux dire, là, ça me semble assez inévitable. En revanche, sur la partie réseau, moi, je suis tout à fait. J'ai rien contre l'ouverture à la concurrence, mais dans ces cas-là, pour moi, il ne peut pas y avoir de problématique du type. social. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, on laisse une concurrence se faire entre les acteurs, mais on ne demande pas à certains d'assurer une tarification sociale ou d'assurer le maintien de lignes sur des trajets non rentables. Voilà,
après, c'est... Si on fait une aide à la personne, ouais. Si on veut faire du social, c'est l'État qui aide
le voyageur. C'est plus cohérent, mais sinon, ça crée une grosse distorsion.
Non, mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'on peut très bien demander à la SNCF, en l'occurrence, dans l'espèce, démission de service public, et sur un volant de son activité, en l'occurrence le TGV, parce que c'est ça le sujet. Sur le TGV, on peut dire, là, pour le coup, c'est open bar, allez-y, faites ce que vous voulez. Et on ne vous impose pas de mission de service public. D'ailleurs, ils n'en ont pas.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a aucune.
Non, c'est sur les...
Et le vrai scandale du prix des billets, il est pas sur les trains, les autres trains. Il est sur le prix des TGV où il y a des abus et surtout une politique tarifaire aberrante. Donc, mettez de la concurrence là-dedans. Je suis pas toujours favorable à la concurrence.
La politique tarifaire, c'est lié au management.
En l'occurrence, exactement. Oui, si vous mettez un autre opérateur en face, vous verrez qu'on aura des prix plus normaux. Ce que j'appelle normaux, c'est ne pas passer de 10 euros à 200 euros pour le prix du même billet.
Il est un peu fort quand même, mais
pas tellement.
J'ai vu des phénomènes.
Vous avez des phénomènes hallucinants en termes de prix. Et les gens sont fous furieux de ça. Donc, le modifier, ça ne pourra avoir que du.
C'est sûr qu'il y a des grandes vertus à la concurrence. Normalement, une meilleure qualité.
Qui exploite une mauvaise programmation du nombre de trains, des horaires des trains, justement, pendant les périodes à forte concentration, etc.
Et l'État doit aussi jouer son rôle de bon régulateur.
La régulation est importante.
Mais c'est important aussi que l'ensemble du vieux monde, du rail, ouvre la porte. Parce que là, quand le fondateur de Midnight Train dit que c'est un marché qui a été organisé par les pouvoirs publics, destiné à un opérateur historique, il ne le dit pas de manière totalement explicite, mais il explique bien qu'on l'a pas laissé rentrer, quoi. Voilà.
Et puis qu'il y a une grosse capture, il y a une grosse capture par le personnel de la SNCF, de la rente de la SNCF. Et c'est ça qui est problématique. Alors, il s'agit pas de tondre les agents de la SNCF, mais c'est vrai qu'il faut mettre fin à cette rente et à la capture de cette rente.
En tout cas, moi, je souhaite qu'il y ait de la concurrence. Et alors là, le projet Proxima, avec son milliard d'euros, ses 12 rames d'ores et déjà commandées à Alstom, on est quand même sur du lourd, c'est bien engagé.
C'est intéressant.
C'est structuré.
Il faut espérer que ça reste rentable.
J'espère que ça ira jusqu'au bout. Odoxa, AJP Challenge, BFM Business, baromètre du mois de juin. Pour ou contre la lutte contre les déficits, quoi. C'est en résumé la question qui a été posée. Je vous laisse nous donner bilan de cette enquête.
Plus que pour ou contre, vous savez qu'on fait ce baromètre depuis plus d'une décennie maintenant, même bien plus que ça. Et donc on a des questions qu'on a déjà posées de manière récurrente. Sur le rapport des Français à l'importance de la question de la réduction de la dette et des déficits, on a vu plusieurs inflexions, pas dire des tournants, mais plusieurs inflexions dans l'opinion. On est passé du « on s'en fiche », il y a quelques années, c'est bien dommage, mais c'est pas très grave dans le fond. Et maintenant, on est sur autre chose. Et la question que nous avons posée aux Français, c'est de savoir si, et c'est une question barométrée qu'on pose régulièrement, si pour lutter contre la dette, d'abord, si c'était quelque chose qu'ils estimaient sérieux, et c'est le cas, et si pour lutter contre la dette et les déficits, il fallait le faire à mort, quitte à ralentir l'économie. Ou bien s'il fallait soutenir l'activité économique, quitte à augmenter la dépense publique et les déficits. Donc, choix de Sophie. Là, en l'occurrence, on est passé en l'espace de peu de temps. Hein. Vous voyez, on avait posé la question.
Côté un peu peste ou choléra, évidemment.
Ou Caribe d'ici là. On est passé d'un 50-50 il y a un an, et c'était déjà un rapport qui s'était largement équilibré par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans, où les gens disaient qu'il faut surtout soutenir l'économie. Donc on est passé d'un 50-50 à aujourd'hui une nette majorité, 59-38, qui disent non, tant pis, quoi qu'il arrive, il faut lutter contre la dette et les déficits. Et quand on regarde surtout ce que nous disent les gens sur les conséquences que ça peut avoir, ils ne se disent pas que le faire va plomber notre économie, mais au contraire, que ce sera positif pour le bon fonctionnement de notre économie. Mais on est dans une période très particulière. On a Standard & Poor's, qui a dégradé la note de la France. On a Bruno Le Maire qui, très curieusement, depuis 9 mois peut-être, ou 8 mois, nous explique, oh là là, je suis à la tête d'un pays en faillite, d'une certaine manière, pour paraphraser un ancien Premier ministre, nous explique que c'est terrible, la situation économique, qu'il faut surtout agir dans ce domaine, alors qu'il est aux manettes depuis 7 ans. Et ça, les Français l'ont entendu, et donc c'est devenu pour eux un sujet extrêmement important. Et l'autre sujet, c'est comment fait-on ? Et là, la grande nouveauté, c'est que les Français sont prêts à faire un certain nombre de sacrifices. Alors, si c'est le moins possible pour eux-mêmes, c'est mieux. Mais quand même, ils sont prêts à ce qu'on fasse un certain nombre de sacrifices au niveau collectif pour parvenir à réduire la dette et les déficits. Il y en a un seul qu'ils ne veulent pas faire, même s'ils le veulent un peu plus qu'avant, c'est la hausse des impôts. On a plus de 80% des Français qui disent non, ça c'est pas possible.
Faire la hausse des impôts pour tous. Hein, de...
oui, pour tous, ouais, oui, pour tous. C'est-à-dire faire rentrer davantage d'argent dans les caisses pour rééquilibrer les choses.
TVA,
on comprend,
CLG,
bien, on comprend bien le principe, mais ça on n'est pas d'accord. Mais à part ça, et ça a progressé de 4 points, les gens qui disent je suis prêt à ce qu'on augmente les impôts pour tous, mais on est à 18% seulement. Mmh. Mais à part ça, finalement, réduire les aides sociales, on a 59% des Français qui nous disent qu'ils y sont favorables. Ça a augmenté de 7 points en un trimestre.
Ah, 7 points
en un trimestre. 7 points en un seul trimestre.
C'est lourd.
Et baisser le nombre de fonctionnaires, on est à 57% de Français qui y sont favorables aussi. Donc, on est face à un choix de société qui montre que l'opinion a largement évolué sur le sujet.
Je vais vous faire réagir. Un jour, il faudra poser la question. Bon, ils sont contre les hausses d'impôts, je ne suis pas étonné. Est-ce que vous êtes conscient que les impôts augmentent souvent sans que ça se voit? Parce que toutes les...
Enfin, les gens le pensent, les gens en sont convaincus de ça. Même quand c'est faux.
Quand on leur explique qu'on va couper une niche fiscale, ils ont bien conscience que c'est le même effet que la hausse d'impôts. Ou quand on décide de supprimer une subvention, finalement, c'est de l'argent qui n'est pas prélevé, mais de l'argent qui n'est plus versé.
Alors, ce que les gens comprennent...
Et c'est une manière, finalement, de resserrer le...
Non, parce que ce que les gens comprennent, quand même, Nicolas, dans impôts, c'est un truc que la plupart des gens payent.
Oui.
Donc, si vous supprimez des niches fiscales ou que vous augmentez les impôts sur les super profits, les super riches, l'immense majorité des gens ne payent pas ça. Donc, quand vous dites ça, ils ne le vivent pas comme une hausse d'impôts. Mais ils ont toujours l'impression qu'on paye plus d'impôts, ça c'est sûr.
Moi, je considère que resserrer les droits au chômage sans réduire les cotisations, c'est une forme d'hausse d'impôts.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Que vous inspirent les résultats de cette enquête, Philippe Trénard, Céline Antonin? On a envie de dire. Ah, moi, je me souviens au moment du PLF 2024, cette phrase m'avait frappé de la part de Bruno Le Maire et je pensais qu'il avait parfaitement raison. Il disait le désendettement, tout le monde s'en fout. Oui, ben peut-être de moins en moins.
Non, de moins en moins.
En fait.
Alors, le petit problème, c'est que parfois les économistes sont un peu en retard et qu'au fond, là, je pense que le gouvernement a fait une pédagogie avec Standard & Poor's et avec d'autres et que les personnes se rendent compte qu'il y a toujours un risque. Ça ne veut pas dire que d'avoir de la dette, vous êtes en crise demain. Ça veut simplement dire que si les chocs continuent à se multiplier comme nous l'avons observé sur le passé, nous allons avoir des problèmes parce que une dette pas trop élevée, des déficits inexistants ou pas trop élevés, c'est une capacité de résilience face à un choc de la guerre éventuellement, choc climatique, choc sanitaire, pandémique, choc éventuellement démographique sur le plus long terme. Donc je crois que quelque part, la réaction à votre enquête me paraît assez normal, c'est de se dire n'augmentons pas les impôts, parce que le problème de l'augmentation des impôts, ça veut dire que pour le choc suivant, vous avez encore moins de marge de manœuvre que pour le choc précédent. Tandis que si vous remettez un peu les choses en place, et c'est vrai que de redescendre au niveau de dépenses qu'on avait avant le Covid, ça devrait être normalement assez simple, puisque les dépenses supplémentaires du Covid n'avaient pas vocation à s'éterniser.
C'est ce qu'avait dit Hollande à l'époque, il avait comparé, je sais plus, deux périodes en disant qu'il y avait eu tant de dépenses en plus et que ça n'avait rien modifié.
Ça n'a rien modifié, voilà.
Voire même l'efficacité. J'ai une espèce d'intuition depuis le début de l'année. Quand j'ai vu ce premier décret à 10 milliards, cette nouvelle annonce à 10 milliards, quand je vois la Cour des comptes qui nous dit c'est minimum 50 d'ici 2027, j'ai l'impression que 2024, il sera peut-être une année de tournant, une année pas comme les autres, dans notre relation collective à la question des comptes publics.
Et ça va permettre aussi, on a pas mal de groupes qui demandent de la dépense, plus de dépenses de défense, plus de dépenses d'écologie, et tout d'un coup on se rend compte que les risques, il n'y a pas qu'un risque, il n'y a pas que le climat, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la pandémie, qu'il y a plusieurs risques, il faut donc des arbitrages, une répartition équilibrée, et naturellement vous ne pouvez pas dire tout sur tel risque, parce que là, c'est prendre un risque majeur.
Céline, oui, je pense 2024, une année pas comme les autres en matière de perception des comptes publics.
Souhaitons-le. Ouais. Mais je pense qu'on est aussi dans une année un peu de bilan de ce qu'on a fait pendant les années précédentes. Et je pense qu'entre les dépenses de la Covid, les dépenses pour la crise énergétique, on a quand même largement ouvert les vannes, enfin, et on a quand même énormément dépensé. Sous le mandat d'Emmanuel Macron, on a quand même la dette publique s'est largement accrue. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire un peu le bilan et de se rendre compte qu'effectivement, le niveau de la dette publique, il faut voir, en Allemagne, ils sont à moins de 70% d'endettement public, on est à plus de 110%. Donc, bon, voilà, il y a quand même des comparatifs qui s'imposent. Et Et pourtant, l'Allemagne a fait aussi, a pris des mesures généreuses, etc. Mais ils étaient en moins mauvaise situation.
Et un choc plus violent. Et
oui,
et on partait déjà. Parce qu'effectivement, j'ai entendu Bruno Le Maire vouloir un peu charger Covid, la crise énergétique, le choc en Ukraine. Mais enfin, il faut voir d'où on partait en 2019.
Oui, tout à fait. Mais il faut voir la dérive depuis 2010 quand on compare la France et l'Allemagne depuis 2010. Enfin, c'est incroyable ce qu'on a divergé. Donc, c'est vrai que tout ça fait que pour les dépenses de demain dont vous parliez, il va falloir aussi avoir des billes. Et donc, si on les a pas, je veux dire, comment on va dépenser? Je pense qu'on prend aussi conscience, dans une période de remontée des taux, puisqu'on a, connu aussi cette remontée des taux, que ça nous coûte plus cher, l'endettement. Et que voilà, et que si on veut investir dans l'école, dans la santé, on ne peut le faire que si.
C'est les effets cliqués. Le problème, c'est les effets cliqués. C'est-à-dire que au moment du Covid, puis au moment de toutes les aides, on a été quand même particulièrement généreux.
Trop généreux par rapport à tous les autres pays.
Alors là, à l'époque, les Français ne le trouvaient pas. N'estimait pas que c'était trop généreux. Et donc, la difficulté, c'est ce que vous disiez, Philippe, il y a un instant, c'est avoir ouvert les vannes parce que nous sommes en France et qu'on a un rapport particulier à la chose publique, au rôle de l'État, qu'on est très bon, c'était normal. Et c'est pas un président crypto-communiste qui a fait ça, c'est Emmanuel Macron. La difficulté, c'est qu'il faut revenir en arrière. Il faut faire rentrer le dentifrice dans le tube. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on a, à mon avis, dans ce sondage, des Français, y compris parmi ceux qui sont les plus nombreux à être opposés, par exemple, à la réduction du nombre de fonctionnaires ou à la réduction des aides sociales, logiquement, sont des sympathisants de gauche ou des salariés du secteur public. Enfin, mais c'est dans des proportions d'opposition assez raisonnables. On a quand même un peu plus de 40% ou 45% des insoumis qui sont favorables à ces mesures d'inspiration. Donc, ça veut dire que la société, elle évolue pas mal sur ces questions. Et puis, on avait une dernière question.
Le résultat m'a frappé.
Qui est terrible pour la classe politique dans son ensemble. Qui est, mais à qui faites-vous le plus confiance politiquement pour parvenir à réduire la dette, les déficits publics, etc. Et on testait les principales formations politiques. Et on se rend compte que les Français nous disent, pour chacune, ils sont une très large majorité à dire, je ne lui fais pas confiance pour y parvenir.
Ils ont confiance dans aucune formation politique.
Aucune formation politique. Donc il n'y a pas d'horizon enthousiasmant, mais il y a quand même une formation qui s'en sort un peu moins mal que les autres, et c'est un énorme paradoxe compte tenu de son programme économique et de ce qui est annoncé. Absolument. C'est le Rassemblement National. C'est-à-dire que le Rassemblement National, c'est pas terrible. On a 32 ou 33%, 33% de confiance de la part des Français pour réduire la dette et les déficits publics. C'est 10 points de plus que le gouvernement actuel qui, Emmanuel Macron, surnommé le Mozart de l'économie, etc., c'est créer une légitimité aux yeux des Français pour sa compétence en matière de finances. Oui. Et aujourd'hui, l'échec de la situation de nos finances publiques fait que il est 10 points de moins crédible que le Rassemblement National, moins crédible que LR et moins crédible que le PS.
Effectivement, je comprends. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Bruno Le Maire, il est quand même là depuis 2017.
7 ans.
Donc,
mais est-ce que c'est pas...
Il y a un vrai bilan.
Très, très, très corrélé avec les choix de vote.
Totalement.
Oui.
Vous avez raison. Mais où est l'œuf et où est la poule? C'est-à-dire c'est tout à fait corrélé aux choix de vote des Français.
Oui, pour moi, il y a même une corrélation de 0,9.
Et quand vous les interrogez sur tout un tas d'autres sujets, les Français, à qui faites-vous le plus confiance? Pour la sécurité, pour ceci, pour cela? Ça redonne le même type de hiérarchie. Mais ça veut dire quand même que là-dessus, il y avait une valeur ajoutée donnée même à des gens qui ne l'appréciaient pas, à Emmanuel Macron, à son équipe, au gouvernement, en se disant, ils s'y connaissent. Il a été dans des banquiers d'affaires, donc tout ce qui est compte public et tout, il doit s'y connaître. Aujourd'hui, il n'y a même plus ce présupposé-là.
Peut-être insister sur le changement quand même de climat. Souvenons-nous de l'élection de 2022. Pécresse est sur un programme, au fond, de ce type, disant le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne fait pas assez attention aux finances publiques. Mmh. C'était au fond, si on devait opposer les deux programmes, c'était ça l'opposition. Et à l'époque, effectivement, les économistes, beaucoup d'économistes, pas la majorité, la majorité des économistes, je pense, et l'opinion disait, c'est pas le sujet, c'est pas le grand problème. Et aujourd'hui, changement de climat assez fondamental que vous soulignez.
C'est 2022, mais...
C'est 2022.
En 2017, c'était François Fillon, hein. Moi, je me souviens, c'était un programme qui paraissait
très
fou,
libéral,
supprimer des fonctionnaires, etc.
Regardez quand même, 2022, c'est finalement loin quand on voit à quelle vitesse nos comptes publics se sont dégradés. Moi, le chiffre qui me fait penser que 2024 et 2025 sont des années charnières, 2021, on rembourse 25 milliards d'intérêts de dette. 2024, 50.
Les taux d'intérêt, c'est le problème. À ce moment-là, ça devient sérieux.
C'est juste
là, on rentre dans le dur.
Et Valérie Pécresse, juste à l'époque, il faut se souvenir quand même qu'au mois de décembre 2021, pendant sa campagne, au moment où elle a son investiture, elle se retrouve à ça d'être qualifiée dans les intentions de vote pour le second tour. Oui. Elle monte à 19-20%, elle est dans une dynamique spectaculaire, et puis ensuite elle fait une mauvaise campagne pour dire les choses rapidement, et elle s'effondre. Mais à un moment donné, il y a eu un moment, Valérie Pécresse, on l'oublie après, mais il y a eu un moment Zemmour, ils sont ensuite effondrés, il y a eu un moment Pécresse, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques semaines, mais puisqu'elle a fait après une succession de mauvais meetings, la communication n'était pas bonne, mais sur le fond, il y avait quelque chose qui aurait pu fonctionner.
Oui, mais enfin, bon, après...
Il n'y a jamais eu de moment idéal, Gauche.
Je comprends qu'il n'y ait pas. Vous voyez, l'attitude d'LR par rapport au sujet budgétaire face à Macron pour être en opposition, où finalement, ils vont tordre leurs idéaux traditionnels par rapport à la gestion des comptes publics.
Sur le plan économique, et donc, comment vous voulez,
comment vous voulez faire confiance à une formation politique qui, justement, était plutôt sur une thématique de sérieux budgétaire un peu à l'allemande, et qui se mouche totalement avec ses positions historiques, dans la mesure où il faut s'opposer au président actuel. Il y a un moment où c'est difficile d'avoir confiance.
Pourquoi vous dites ça, Nicolas?
Aujourd'hui, vous avez LR qui a réussi à s'opposer dans le budget 2024, j'ai plus la liste exacte des mesures qu'en théorie, cette formation politique aurait dû porter.
Y compris les retraites.
Non, mais parce que ce qu'ils disent, enfin moi je ne me fais pas le porte-parole de qui que ce soit, mais parce que ce qu'ils disent, c'est que ça ne va pas assez loin. C'est la même chose quand le RN est en désaccord sur des sujets d'immigration avec le projet de loi immigration initial, en disant, oui, bien sûr, vous voulez durcir, mais c'est un durcissement mou, moi, je veux aller plus loin. Donc, c'est ça, le positionnement de LR. Il se positionne quand même, a priori, sur une ligne moins dispendieuse, en tout cas en affichage, que ce que propose Renaissance.
Ce ne sont pas les mêmes leviers aussi.
Et puis, il faut se différencier en politique, sinon vous n'existez pas.
Ça pointe un peu du doigt la dynamique, au fond, majoritaire, qui amène à ce type de comportement. Vous ne faites pas tout ce que je dis, je suis contre vous, même si vous faites la moitié du chemin, c'est vrai, dans une optique plus de compromis à la 4ème République, vous dites, je viens vous apporter mes voix.
On avance. Moi, ce qui m'a frappé dans cette question, c'est qu'en fait, la très grande majorité n'a confiance dans aucune formation politique pour réduire les déficits, parce que la réponse, pas confiance, elle enregistre des résultats qui vont de 66 à 82%.
Ouais, en gros, les trois quarts des gens en moyenne.
Mais c'est vrai que ces différents partis ont été au pouvoir à part le RN. Et honnêtement, c'est vrai que le bilan de leur gestion des finances publiques est pas brillant.
Mais quand même, quand j'ai entendu Bruno Le Maire se désespérer du 50e budget dans le rouge de la France, j'avais envie de lui dire, monsieur le ministre, vous étiez là dès le 43e. Hein.
Oui, Emmanuel Macron lui a dit, paraît-il. Oui, Emmanuel Macron lui a dit, Bruno, ça fait 7 ans que tu es...
Alors, si on voulait parler du Rassemblement National, il dit qu'il aurait, lui, maîtrisé la dette, mais malheureusement, le programme qu'il a,
l'a fait exploser encore plus vite.
Dans l'expertise réalisée d'ailleurs par des membres du Cercle des économistes dans Challenge, des propositions économiques du RN, je crois qu'ils ont chiffré l'histoire à 4 points de PIB, quoi. 4 points de PIB, c'est 100 milliards d'euros. Et toujours avec l'idée que c'est en allant ramasser l'argent magique de la lutte contre la fraude qu'on peut tout financer.
Enfin, les hypothèses les plus favorables, ça faisait accroître beaucoup plus vite que Macron la dette publique. Alors, je ne parle pas des hypothèses des favorables.
C'est où la richesse? Alors, cette fameuse question, on est riche à partir de quel montant? Et alors, l'Observatoire des inégalités a voulu donner... Je ne sais pas comment ils arrivent à ce résultat. Pour eux, c'est deux fois le niveau de vie médian. Donc, ça donne, après impôt, pour une personne seule, on est riche au-delà de 3 860 euros par mois après impôt. Pour un couple après impôt, au-delà de 5 790 euros. Pour un couple avec deux enfants après impôt, au-delà de 9 650 euros, selon l'Observatoire des inégalités, ça représente 4 700 000 Français.
Vous vous souvenez, Nicolas, qu'on pose la question dans le baromètre régulièrement, avec vous à JP Challenge BFM, c'est quoi un riche? Et donc, on retombe à peu près là-dessus. On est entre 4 000, selon les années, entre 4 000 et 5 000 euros par mois, mais en brut, c'est pas après impôt, quoi.
Par foyer ou par personne?
Par personne. Et vous vous souvenez ce qu'avait dit François Hollande, il y a quelques années, qu'à partir de 4 000 euros, on était riche. Il était pile poil dans la plaque de ce que nous disent les Français dans les sondages. Et c'est à partir de... Alors, sur le patrimoine, on est autour de entre 500 000 et 1 million d'euros qu'on est considéré comme riche selon les années. Le riche, dans l'enquête, c'est celui qui gagne deux fois plus que soi, puisque quand on compare ça au revenu des gens, en fait, ils situent la richesse à deux fois leur propre niveau de vie.
Oui, ça colle bien, puisque le revenu médian, c'est 23 000 euros. Mmh. Donc, effectivement, c'est-à-dire à peu près 2 000 euros par mois.
Oui, c'est à peu près 2 000 par mois.
Donc, c'est pas un très riche, le riche. C'est mon voisin, un peu plus riche que moi.
Alors, Philippe Trénard, il faut quand même s'arrêter une seconde, parce qu'il est assez fréquent que l'Observatoire des inégalités, non, qui sonne comme ça très académique, prenne des positions, mais enfin des positions qui sont généralement entaché de pas mal d'idéologies. Hein.
Oui, j'arrive pas à comprendre ces chiffres. Je sais pas, un riche, bon, je vois bien dans le discours politique, j'aime pas les riches, bon, mais c'est quoi un riche? Honnêtement, ces définitions-là, elles sont à la limite de l'absurde et du surréaliste. Oui. C'est pas, il y a rien de scientifique là-dedans, non, zéro scientificité, et on a un observatoire des inégalités qui se présente scientifique, qui après ça, qui vous dit, d'ailleurs, dans l'enquête Challenge, je vois que, alors vous êtes un peu consterné, vous attendriez qu'on cite le World Database de Piketty ou qu'on cite les travaux de recherche qui viennent de paraître aux États-Unis ou les comparaisons que vient de faire au NBER, un article très intéressant sur l'évolution des inégalités. Bien évidemment, l'Observatoire des inégalités ignore tout ça et on a l'impression que c'est plutôt un discours un peu politisant qui essaye de donner un peu d'économie à des concepts très politiques.
Oui. D'ailleurs, là, en fait, ils veulent s'attaquer en fait à l'INSEE et qu'ils accusent sans le dire de mutisme sur la question de la richesse, l'INSEE se limitant à dire en dessous de quel montant on est pauvre. Mais il faut voir qui est dans cet observatoire, qui l'a fondé, pour voir quand même son orientation politique qui est absolument claire et précise.
Oui, mais la science n'est pas faite, ça a quand même un rapport à la politique un peu distancié. Ça donne des instruments aux politiques, mais ça ne fait pas de politique. Donc, voilà.
Oui, et puis alors moi ce qui me gêne toujours dans ces questions de richesse, et qu'on l'a dit, c'est très subjectif. C'est toujours on est le pauvre de quelqu'un, le riche de quelqu'un, mais c'est qu'en plus ce qui compte c'est vraiment l'effet objectif. Enfin, pour le coup, on regarde le revenu médian en France et ce qu'on voit, ce qu'on qualifie en fait par exemple comme riche, c'est donc les le revenu médian, donc c'est à peu près 23 000 euros et le revenu donc
par an,
oui. Et quand on rentre dans le 10% de plus riche en termes de revenus, on est au double à peu près. Donc je considère que quand on fait le ratio des deux, on est à un ratio de deux. C'est pas quelque chose de délirant. La France fait plutôt partie des pays égalitaires après redistribution. Clairement. Il faut quand même le rappeler. Alors, la redistribution nous permet de redescendre vraiment à un niveau d'égalité qui est quand même assez important. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est notamment ce que montrent les travaux de Piketty et de tous les gens qui travaillent sur la richesse, ce qui est important, c'est justement ce qui se passe dans les 10% du haut, voire le 1% du haut, où on a une augmentation exponentielle des revenus. C'est-à-dire que même entre le... un centième de revenus supérieurs par rapport aux 10%, on a un ratio qui est aussi de 1 à 2, en fait. Et à chaque fois, ça augmente de plus en plus. Donc, en fait, c'est complètement exponentiel. Et donc, pour moi, la richesse, elle se définit dans ces eaux-là. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est cette exponentielle qui est intéressante. C'est pas ce qui se passe entre 2000, 3000 ou 4000 euros. Enfin,
Le seul raisonnement qui justifierait ça, puisque nous, on fait des sondages, donc on se cale sur les quotas de l'INSEE, c'est le découpage en quartiles de la population. Que fait l'INSEE et où, bah oui, il y a bien les 20% de Français. On est capable d'identifier le niveau des 20% de Français les plus riches. Et quand vous dites ça à droite à gauche à vos amis, que vous dites où ça se situe, autour de 3 500-4 000 euros. Enfin,
et qu'on appelle classé Z à l'INSEE d'ailleurs.
Oui, quand on dit, vous savez, quand on dit les CSP+, c'est les catégories de revenus supérieurs, les Français les plus aisés. Ben, on est en train de parler de gens qui gagnent plus de 3 500 euros par mois. Et donc, on est sur des niveaux qui souvent étonnent les gens. Alors après, il y a la variable Paris, enfin région parisienne, reste de la France, où vous multipliez par deux, en fait.
Oui, oui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre le coût de la vie là où vous habitez aussi. Il faudrait un vrai indice.
Soit vous considérez qu'on est riche sur le plan statistique, et donc effectivement, à partir de 3 500, 4 000, on est riche. Comparé au reste de la population, soit vous considérez que être riche, c'est peut-être pouvoir s'arrêter de travailler et vivre de ses rentes. Et dans ce cas-là, on est plutôt dans le dernier centième du dernier décile.
Mais en plus, il y a la combinaison du revenu et du patrimoine aussi qui doit rentrer en compte, parce que là encore,
probablement quand autrefois le Parti communiste au moment du Front populaire et parlait des 200 familles, effectivement, il était sûr que ces gens étaient riches et qui n'étaient pas les équivalents du Français moyen. Mais, alors les 1%, c'est sûr qu'on est chez les riches, là il n'y a pas de problème, personne ne le contestera, et je crois que... Mais là, je trouve...
Mais les 1%, on est au-delà de 110 000 euros. Hein.
Mais bien sûr,
on n'est pas... Et moi, ce qui me gêne le plus, bon, à la limite, qu'ils mettent les chiffres qu'ils mettent et les définitions qu'ils veulent, mais ce qui me gêne, c'est quand après, c'est repris par le politique pour dire, en fait, c'est le moyen de taxer, par exemple, à l'IR, de dire, il faut qu'il y ait 42% uniquement de la population qui porte l'ensemble de l'effort fiscal sur l'IR. Ça, c'est quand même plus problématique.
Vous avez raison aussi de rappeler que la France a quand même un système de redistribution le plus généreux du monde. Oui. On a un écart, alors c'est redistribution monétaire, on a un écart de 1 à 13 après revenus. une fois que l'impôt est passé par là, ça passe
avant, avant revenu.
Après revenu tous les mois.
Ouais. Revenu d'activité.
Revenu voilà. d'activité, 1,13. Là-dessus, passe la fiscalité, on tombe à 1,7. Et avec l'apport des services publics très largement gratuits pour une bonne partie de la population, on tombe entre 1 et 3 c'est d'après ça. L'INSEE.
Oui, c'est même 2,5, 2,7 selon les années. Honnêtement.
On a fini. On a fini quoi, pardon ?
Non, non, mais c'est ça qui, moi, ce qui je trouve problématique, c'est quand après, ça sert de base pour le politique.
C'est comme ce chiffre qu'avait sorti un jour le syndicat des impôts. La fraude, c'est 180, 100 milliards. Ça n'a jamais été vérifié. Et à tous les coups, on vous le ressort. Ah, pour financer mon programme, j'irai chercher les 100 milliards de la fraude.
Oui. Ouais. Bah, la fraude, on ne sait pas comment les chercher.
La fraude, ça fait des années qu'on n'arrive pas à dépasser les 2 milliards sur la sociale et qu'on n'arrive pas à dépasser les 11 milliards sur la fiscale.
Alors, mais un chiffre répété de façon péremptoire ne sera jamais
une vérité. On va chercher le trésor des Qatars.
Oui. Bon, merci à vous d'avoir été là. Céline Antonin, Philippe Trénard pour le Cercle des économistes, Gaël Sliman pour l'enquête mensuelle Odoxa AJP, Challenge BFM Business. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.